l'Église orthodoxe aujourd'hui. Auditrices et auditeurs, bonjour. En cette période liturgique éclairée par la lumière divine de l'enfant nouveau-né Jésus-Christ, nous vous proposons d'abord de nous pencher sur le grand mystère de Noël. Ensuite, vous pourrez écouter un entretien avec M. le professeur Olivier Clément sur la fête du 1er janvier. Le 25 décembre, par la célébration de la Nativité du Seigneur et de l'adoration des bergers et des mages, une série de fêtes a commencé pour l'Église orthodoxe. Aujourd'hui, le 26 décembre, nous célébrons la synaxe de la Mère de Dieu, la très sainte Vierge qui enfantait le Sauveur. Ce dimanche d'après la Nativité, nous célébrons également Saint Joseph, le fiancé de la Vierge, Saint Prophète et Roi David, et Saint Jacques. Le dernier a été appelé le frère du Seigneur, car selon la tradition, Joseph était veuf et Jacques était son fils du premier mariage. Le 27 décembre, nous allons fêter le saint archidiacre Étienne, le premier martyr chrétien. Les saints-pères de l'Église ont consacré à la fête de Noël de nombreux écrits et discours. Parmi ces discours, le plus célèbre est celui prononcé le 25 décembre 380 à Constantinople par saint Grégoire de Nazianze, qui a inspiré la première strophe du canon liturgique de la Nativité. Écoutons ce chant byzantin et ensuite le début du discours.
Le Christ vient au monde, glorifié. Le Christ est en les cieux, à les attentes. Le Christ est sur terre, élevez-vous. Chantez au Seigneur, toute la terre.
Le Christ est né, rendez-lui hommage. Le Christ est descendu des cieux, venez à sa rencontre. Le Christ est sur terre, clamez votre joie, chantez le Seigneur terre entière. Et pour ramasser les deux aspects en une seule formule, que les cieux se réjouissent et que la terre exulte, à cause du Christ céleste d'abord, du Christ terrestre ensuite. C'est le Christ qui s'est fait chair, tressaillé de crainte et aussi de joie, de crainte à cause de la faute, et de joie à cause de l'espoir. Le Christ est né d'une vierge, femme. Honorez la virginité pour que vous soyez mère du Christ.
Retrouver les images prophétiques évoquées par ce chant liturgique dans un hymne composé par saint Romanos le Mélode pour le deuxième jour de Noël qui est consacré à la Mère de Dieu. Il a vécu à Constantinople au début du VIe siècle et il a dédié de nombreux poèmes aux grandes fêtes chrétiennes. Écoutons un fragment de ce troisième hymne de la Nativité.
Joseph était stupéfait de ce spectacle surnaturel et il comprenait, en voyant ta grossesse sans semence, Mère de Dieu, la pluie sur la toison, le buisson qui dans le feu ne se consumait pas, la verge d'Aaron qui fleurit. Et pour te rendre témoignage, ton fiancé et gardien s'écriait disant au prêtre, « Une vierge enfante, et après l'enfantement, demeure toujours vierge. Ce que je vois, je ne peux le comprendre, car voici qui dépasse l'entendement humain. Comment l'herbe envahie par le feu ne se consume pas? Comment la brebis porte un lion, l'hirondelle un aigle et la servante son maître? En son ventre mortel qui ne le circonscrit pas, Marie porte mon sauveur, car il l'a voulu. C'est pourquoi je m'écris joyeusement, une vierge enfante, et après l'enfantement, demeure toujours vierge. Aucun roi ne se croit outragé quand, dans son désir de venir à bout de l'ennemi, il va jusqu'à endosser la tenue du simple soldat. Ainsi Dieu, cherchant à blesser celui qui a blessé Adam, prend chair en une vierge, un piège pour le malin. Voilà ce que devient, en prenant notre condition, l'Éternel, que sans semence enfante une vierge, et après son enfantement, elle demeure toujours vierge.
La naissance du Christ est l'accomplissement de la prophétie par laquelle Dieu a promis aux ancêtres de l'humanité, Adam et Ève, d'envoyer un sauveur. Il meurtrira la tête du serpent, c'est-à-dire le pouvoir du diable, et délivrera l'homme de l'esclavage du péché. Dieu a souvent renouvelé durant l'histoire cette promesse, véritable rayon d'espérance. Ainsi, il a préparé le peuple Israël par les prophètes pour la naissance du Messie. Mais le Créateur du monde entier a guidé aussi les autres peuples vers le Christ par des fragments de la révélation primordiale qui ont été conservés dans leur religion et par sa création même. Si les bergers juifs ont reçu l'annonce de l'ange et ont été enveloppés par la lumière divine, les mages perses venus d'Orient ont été guidés par la lumière moins forte de l'étoile. Leur exemple a été évoqué par saint Sophron, patriarche de Jérusalem, dans l'homélie qu'il a prononcée le 25 décembre 634. Écoutons un fragment de cette homélie.
Vraiment, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre et bienveillance parmi les hommes. Comme le berger, je bondis, et je tressaille en entendant les voix divines, et j'accours vers la crèche qui accueille Dieu. Je désire arriver à la grotte céleste, je désire voir le mystère radieux qui s'y trouve, et la proclamer ligne en contemplant celui qui vient de naître en m'écriant. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur terre, et bienveillance parmi les hommes. Et j'imiterai aussi les mages dans leur divine sagesse et leur divine et étonnante course, par laquelle les très fidèles se sont présentés dans la divine Bethléem. En s'approchant, ils n'ont pas tremblé devant Hérode, et ils n'ont pas redouté le couteau tueur d'enfants, possédant une étoile qui les illuminait, ayant trouvé un guide élevé et céleste pour leur voyage élevé. Je veux devenir leur compagnon, et j'étendrai les mains pour offrir des dons au nouveau-né, même s'il ne veut pas qu'on lui apporte de l'or et de la myrrhe et de l'encens, comme ils lui ont offert, lui qui est le Créateur de tout l'univers et qui, de plus, nous fournit ce qui nous manque, lui qui désire à la place de l'or la joyeuse clarté de la foi, qui veut à la place de la myrrhe la pureté et l'intégrité de l'âme et du corps, et non moins l'incorruptibilité du dogme et l'enseignement de la pensée orthodoxe dans la foi. Il souhaite qu'on lui apporte de l'encens de bonne odeur et parfumé de nos œuvres, non pas qu'il ait besoin de quelque richesse, mais afin qu'il nous rende nous-mêmes plus riches par elle. De quel bien élevé, de quel exploit lumineux, Dieu n'est-il pas le trésor et la source, tel un océan incommensurable? Bien plus, il est pour nous le donateur généreux de tout ce qui nous manque.
Tu es un Dieu de paix, un Père.
premier jour du Nouvel An, l'Église célébrera plusieurs fêtes. Sur ces fêtes, nous nous sommes entretenus avec M. Olivier Clément, professeur à l'Institut de théologie orthodoxe Saint-Serge de Paris. Nous lui avons d'abord demandé quelle est la signification de la fête du 1er janvier pour les chrétiens orthodoxes.
Pour les chrétiens orthodoxes, c'est, je crois, essentiellement la Saint-Basile. Ils fêtent la Saint-Basile. Et je pense qu'ils fêtent aussi la circoncision du Christ, qui est le signe même de son incarnation et de son incarnation dans un peuple avec ses coutumes, avec sa loi. Il descend, non seulement il prend chair, mais il entre dans une histoire. Et il entre dans des pratiques religieuses d'un certain temps, et il les accepte, il les prend sur lui. Et puis la Saint-Basile, c'est la célébration d'un des pères de l'Église les plus importants, les plus intéressants au IVe siècle, un homme qui a été un des fondateurs de la vie monastique. Jusque-là, il y avait surtout des moines isolés, des moines ermites ou un semi-érémitisme avec saint Bacom, saint Antoine d'abord, donc c'était, on partait au désert et on essayait au désert de s'approfondir, de se déifier, comme dit la tradition. Et puis il y a eu alors ces villages de moines, Sainte-Laure, créés par saint Bacom. Mais à l'époque de Saint-Basile, il y avait une sorte de scission qui se pesait dans l'Église et qui était inquiétante. D'une part, il y avait des athlètes de la foi et de la sèse, ces grands moines que je viens d'évoquer, et d'autre part, il y avait alors ces foules qui entraient dans l'Église parce que l'empereur était devenu chrétien, qui n'avait aucune formation, et qui n'était même pas baptisé souvent, qui attendait d'être, les gens attendaient d'être sur un lit de mort, et l'empereur le premier, pour se faire baptiser. Et entre les deux, il y avait vraiment un abîme. Et alors, Saint-Basile est celui qui a eu l'intuition que les moines ne devaient même pas s'appeler moines, qu'ils devaient être simplement des chrétiens d'avant-garde, qui donneraient l'exemple, et que le monastère devait être vivant comme devaient l'être les petites paroisses, comme devaient l'être les petites paroisses, il devait inspirer cela. Et il a été, d'une certaine façon, le créateur et le législateur de ce que nous appelons le monachisme cénobitique, c'est-à-dire le monachisme communautaire. C'est extrêmement important. Par ailleurs, c'est un homme qui a écrit des textes d'une très grande profondeur, d'une très grande valeur. Par exemple, son traité du Saint-Esprit, qui est un des plus beaux textes qui existent en la matière, quelque chose de clair et de profond, de bien construit. C'est un très beau livre. Et puis, en même temps, c'est un homme qui savait résister au pouvoir impérial quand il le fallait, qui avait un sens aigu de l'indépendance de l'Église par rapport à l'État et qui a résisté. C'était une époque où les empereurs étaient ariens, c'est-à-dire ne confessaient pas pleinement la divinité de Jésus, ce que la Noël atteste au contraire. Et Saint-Basile a résisté aux empereurs et il a eu aussi une activité sociale extrêmement considérable, puisqu'il avait créé, près de sa ville épiscopale, Césarée, une sorte d'énorme centre social que le peuple a appelé la Basiliade, pour faire honneur à Saint-Basile, et où les pauvres, les gens qui n'avaient pas de ressources, les pèlerins pouvaient venir, étaient accueillis, étaient logés, étaient nourris. Et il y avait là un très grand effort véritablement dans le domaine social. Et Saint-Basile, il est tout ça. C'est un grand évêque, c'est un grand moine, et c'est un homme qui a une activité sociale considérable, et en même temps, c'est un évêque libre qui sait faire face au pouvoir impérial. Donc, je crois que c'est très bien qu'on le célèbre solennellement le 1er janvier. Chaque temps,
culte orthodoxe, les prières de Saint Basile sont assez renommées comme les plus puissantes prières contre le malin, les plus puissants exorcismes de l'Église. Et l'Église orthodoxe établit que ces prières doivent être prononcées le 1er janvier à l'occasion de la fête de Saint Basile. Est-ce que vous pensez que ça c'est lié aussi à une nécessité d'exorciser le début de l'année?
Et je pense que c'est très bien d'exorciser le temps afin de pouvoir le sanctifier. Nous sommes appelés à sanctifier le temps, à sanctifier les rythmes du temps. Après tout, la Noël correspond au solstice d'hiver, de même que la fête de la Théophanie. Pâques, c'est le printemps et c'est le moment de l'équinoxe. Le jour et la nuit sont égaux et la nuit est éclairée par la pleine lune, et ainsi de suite, n'est-ce pas? Il y a une sanctification du temps. Et donc, c'est très bien qu'il y ait des prières qui exorcisent le temps, qui le purifie de tout ce qu'il peut y avoir de mauvais, d'inquiétant, et qui en même temps le libère, et qu'on peut le sanctifier. Parce que les anciens païens pensaient que les cycles du temps, puisque le temps est un temps cyclique, n'est-ce pas, d'une certaine façon, que les cycles du temps sont une preuve que des étoiles sont des dieux. Et au contraire, les pères de l'Église, les saints Basile parmi eux, ont déclaré qu'il ne fallait pas de ces mathématiques, de ces gens qui adoraient les étoiles, que le chrétien est au-delà de tous ces cycles du temps, il est au-delà, il est dans la lumière de Dieu. C'est déjà l'éternité qui nous visite avec le Christ, et le temps n'est pas seulement cyclique, c'est aussi une flèche qui tend vers le retour du Christ, la première venue que nous célébrons avec la Noël, et nous attendons la seconde venue en plénitude.
La plus belle définition du temps, c'était celle qui a été donnée par le grand théologien roumain, le père académicien Dumitru Stăniloae, qui disait que le temps, c'est la distance entre l'appel de Dieu et la réponse de l'homme.
Oui, oui, exactement. Le père Dumitru, que j'ai assez bien connu, avait cette vision très très intéressante du temps et de l'espace. Et il disait qu'au fond, oui, le temps est nécessaire pour que nous puissions aller vers Dieu, pour que nous puissions aller les uns vers les autres, et de même l'espace. À ce moment-là, il faut qu'il y ait un certain espace. Oui, c'est une intuition que je trouve admirable, et de dire qu'au fond, le mystère de la Trinité s'inscrit dans la temporalité, justement comme le temps nécessaire pour se rencontrer, et le temps nécessaire pour aller vers Dieu.
On peut dire ainsi que ce nouvel an, qui commencera bientôt, c'est encore une chance que Dieu nous offre pour que nous donnons notre réponse à son appel.
Bien sûr, bien sûr. Dieu nous donne du temps. Dieu nous donne du temps pour que nous puissions nous tourner vers lui et devenir à notre mesure des créateurs créés et d'une certaine façon faire mûrir le temps vers sa venue, la venue définitive du Christ.
Thank you.
chers auditeurs, en vous remerciant pour votre attention, nous vous souhaitons une bonne année emplie de joie spirituelle et nous vous donnons rendez-vous samedi prochain à 13h sur Radio Anguien 98 FM et dimanche prochain à 17h sur Radio Notre-Dame 100.7 FM à la première émission de l'année 2005. Vous venez d'entendre l'émission L'Église orthodoxe aujourd'hui. Une émission présentée et réalisée par Bogdan Florin Vlaicu. La lecture des homélies et de l'hymne, le père diacre Octavien d'Abidjan. Les chants liturgiques ont été interprétés par les moines du monastère Simonos Petra au Moatos et du monastère Saint-Antoine le Grand dans le Vercors, la chorale Saint-Silouan de Paris et la chorale Madrigale de Roumanie. Voilà.